chronique d'Alzheimer. Une émission réalisée en partenariat avec la Halte Répit et l'équipe Alzheimer du CIVOM de Rieux-Volvestre. Bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette cinquième émission sur les chroniques d'Alzheimer que nous faisons régulièrement avec l'équipe spécialisée Alzheimer du CIVOM du Volvestre, à Rieux-Volvestre. Et aujourd'hui, je suis en studio avec deux personnes très spécialisées, une ergothérapeute Annelise et une psychomotricienne Eva. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer la chose, on va peut-être définir vos métiers différents. Qu'est-ce qu'une ergothérapeute ?
Alors, l'ergothérapeute est un professionnel de santé, éducateur, qui base sa pratique sur l'activité de la personne. Ça peut être dès que la personne ne peut plus accéder à certaines choses de sa vie quotidienne, faire sa toilette, s'habiller, se déplacer à son domicile, par exemple. On va intervenir à ce moment-là. Donc ça peut être soit de la rééducation ou de l'adaptation de l'environnement, par du matériel, par exemple, ou...
Adaptation de l'environnement, c'est-à-dire dans son lieu de vie.
Dans le lieu de vie, oui. Ça peut être des choses toutes simples, comme mettre des lampes lumineuses sur des prises, comme réaménager la salle de bain, comme on peut connaître assez classiquement, pour qu'elle puisse faire sa toilette en toute sécurité.
Ça, c'est l'ergothérapeute. Et la psychomotricienne, alors ?
Du coup, le travail de psychomotricien travaille beaucoup autour du corps et, on va dire, de la mémoire. Beaucoup le ressenti émotionnel, on travaille beaucoup autour de ça. On va faire soit des prises en charge plutôt rééducatives, donc avec les enfants, ou sinon avec les personnes âgées. On va plutôt travailler, voilà, un petit peu pareil que l'ergothérapeute, l'environnement à domicile, toujours à travers le corps du coup, et le ressenti émotionnel.
Psychomotricienne, il y a beaucoup de travail qui est fait par rapport à l'affect de la personne, j'entends pour les personnes âgées.
Oui, c'est bien ça. Du coup, il y a beaucoup de travail autour de l'affect, de la conscience du corps, du vieillissement, de l'acceptation des pertes des capacités. Donc, on travaille avec ça pour après faire un meilleur travail avec l'ergothérapeute autour de l'environnement.
Vous, c'est la psychomotricienne, comment ça se passe ? Vous allez chez les gens viennent vous voir, c'est des rendez-vous qui sont pris. Pour avoir accès à vos services, comment ça se passe ?
Donc, tout d'abord, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est sur prescription du médecin spécialiste ou du médecin traitant. Après, c'est souvent la famille ou les médecins directement qui nous contactent au sein de l'ESA.
ESA qui signifie ?
Ah oui, équipe spécialisée Alzheimer. Donc après, c'est l'infirmière coordinatrice qui va venir prendre le premier contact avec ces personnes-là, poser le premier rendez-vous qui sert d'entretien, donc entre le rééducateur et l'infirmière coordinatrice. Et par la suite, on enclenche les 14 séances restantes avec une assistante de soins en gérontologie qui va venir travailler nos objectifs.
14 séances qui sont réparties sur plusieurs mois, plusieurs semaines, comment ça se passe ?
Donc du coup, les séances se répartissent de façon hebdomadaire, d'une durée environ de 45 minutes à 1 heure.
Vous faites quoi exactement en psychomotricité avec ces personnes ? C'est debout, assis ?
Tout va dépendre des pathologies des personnes. Donc par exemple, une personne qui va avoir Alzheimer... on va beaucoup travailler plutôt au bureau ou tout ce qui est les fonctions de la mémoire. Donc, on va venir chercher ce qui est encore actif et ce qui est fragilisé. Et on va venir travailler ce qui est fragile et ce qui pose souci à la personne. Et là, on va passer par des activités plutôt du quotidien.
Par exemple, des souvenirs aussi, des activités comme faire la cuisine, des choses comme ça, et sur lesquelles elles vont pouvoir discuter, échanger.
C'est bien ça. Par exemple, la cuisine, on va en profiter pour voir comment la personne s'organise dans sa cuisine, dans l'espace, comment elle s'organise pour faire les étapes. Et en même temps, on va venir travailler un petit peu la sensorialité, des odeurs, du toucher, venir un petit peu chercher ça et redonner du plaisir à faire une activité en étant moins en difficulté.
Et concernant l'ergothérapeute, vous, quand vous intervenez aussi chez les personnes et sur aussi prescription médicale?
Oui, c'est aussi sur prescription médicale. Donc, dans le cadre de l'équipe spécialisée Alzheimer, c'est vrai qu'on a les psychomotriciens et les ergothérapeutes ont des approches similaires. Ce qui fait que on aura des objectifs qui peuvent être communs. Ce qui va changer, c'est la couleur de nos expériences et de nos professions. mais l'objectif est très proche.
L'objectif, donc, c'est de bien de rendre la personne la plus autonome possible dans son environnement.
La plus autonome possible dans son environnement et en toute sécurité aussi et sereinement.
Et donc, vous, voilà. Vous intervenez sur quoi exactement ?
L'ergothérapeute, ça dépend aussi dans quel milieu il intervient. Il peut intervenir, travailler dans plusieurs structures en tant que salarié ou bien être en libéral. Il peut être autant dans un lieu de vie comme une maison de retraite ou une maison d'accueil spécialisée où il y a des personnes polyhandicapées, par exemple, ou bien être en lieu de vie où là, on aura accès au domicile. Ça peut être la personne âgée ou très souvent aussi les enfants avec les parents. Donc c'est assez varié. Ce qui fait que vraiment le cœur même de l'ergothérapie, c'est permettre à la personne d'accéder ou de reprendre une activité qu'elle ne pouvait plus faire ou à laquelle elle n'avait pas accès, quelles que soient les raisons. Que ce soit les raisons motrices, cognitives, psychologiques aussi, ça fait partie.
C'est-à-dire que vous intervenez soit après un accident, par exemple, ou après un choc émotionnel très important, la personne un peu prostrée.
Ce sera plutôt un accident, on peut dire un accident de la vie, ça peut être une maladie qui s'est installée, ou bien un accident de la route, par exemple. Choc émotionnel, beaucoup moins, mais c'est imbriqué dans l'approche de la personne, puisqu'après un accident de la vie, quel qu'il soit, en général, il y a aussi la partie psychologique qui est importante.
Vous allez chez la personne, vous faites une évaluation du domicile ou du lieu de vie, pour voir quels sont les éventuels problèmes ou handicaps qu'elle pourrait rencontrer.
Ça dépend justement dans quelle structure on se situe. Si c'est suite à un accident de la vie ou une maladie, on peut se trouver plutôt en rééducation. Et là, c'est de la rééducation pure et dure. Il s'agira donc de récupérer les fonctions cognitives ou motrices de la personne pour qu'elle puisse peut-être au moins être autonome à se rendre aux toilettes, par exemple. Et ensuite, à la sortie de la rééducation, cas classique, on va envisager le retour à domicile quelques semaines avant le départ de la personne. Et là, il peut y avoir une visite du domicile ou passer le relais à d'autres professionnels en libéral.
Dans le cadre justement de l'ESA, enfin, l'équipe spécialisée Alzheimer, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, vos activités donc, concernent essentiellement des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Vous travaillez en équipe, vous travaillez seul, comment ça se passe ?
Alors, on travaille en équipe. Après, concernant les personnes, on a une majorité de personnes âgées. Cependant, on a de plus en plus de personnes un peu plus jeunes qui sont diagnostiquées bien plus tôt. Et tout dépend de la pathologie qui a été diagnostiquée. Parce que oui, les personnes qui présentent la maladie d'Alzheimer sont souvent un peu plus âgées. Mais les personnes qui vont avoir une maladie de Parkinson, on les retrouve beaucoup plus jeunes, à 55 ans, 60 ans généralement. Donc, tout dépend un petit peu des pathologies. Mais principalement, on a une moyenne plutôt âgée.
Et donc, c'est du travail que vous faites en équipe et vous répartissez les tâches. C'est le médecin qui, lui, va donner, ou l'infirmière coordinatrice qui va dire « ça, c'est plutôt de l'ergo, ça, c'est plutôt… » Ergo, excusez-moi, enfin le raccourci d'ergothérapeute, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, hein, plutôt psycho ou plutôt ergo.
Alors, le choix de l'ergothérapeute ou du psychomotricien se fait en fonction du planning. Donc, vu qu'on a sensiblement le même travail au sein de l'équipe spécialisée Alzheimer, c'est l'infirmière coordinatrice en fonction du planning des usagers qui va nous placer sur leur domicile. Donc parfois, ça peut être l'ergothérapeute qui va intervenir. Et pour un autre patient, ça va être le psychomotricien. Après, quand on a vraiment des questions vraiment pures et dures par rapport à un métier, on va bien sûr se concerter en équipe et voir avec l'ergothérapeute si la question le concerne pour discuter de ce patient et de cette prise en charge.
Ce qui veut dire quand même, mais c'est que vous travaillez vraiment en équipe. C'est-à-dire que vous vous échangez sur vos patients. On les appelle patients, on les appelle comment, résidents, comment vous les appelez ?
Plutôt dire bénéficiaire, on peut dire patient ou la personne, tout simplement. Ou madame
X ou Y, d'accord. Mmh. Et donc, vous échangez entre vous pour partager vos informations. Tiens, il s'est passé ça, etc.
Oui, toujours souvent en fin de journée. Du coup, l'assistante de soins en gérontologie qui va une fois par semaine chez le patient, sur son domicile, va venir nous revoir en fin de journée et discuter de ce qui s'est passé, des évolutions de la prise en charge. Le rééducateur a souvent les aidants, donc ce sont des proches, soit les maris, soit les épouses, soit les enfants, soit les voisins, ça dépend. Et nous, c'est le rééducateur où on fait beaucoup plus le lien avec ces personnes-là et tout le corps médical qui va venir entourer la personne, donc les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les médecins spécialistes, médecins traitants. Donc vraiment, c'est pluridisciplinaire, mais au sein de l'équipe spécialisée Alzheimer, il y a l'infirmière coordinatrice, les rééducateurs et l'assistante de soins en gérontologie.
Personnellement, c'est un choix que vous avez fait de travailler sur les maladies neurodégénératives ?
Moi, personnellement, oui. J'avais fait mon mémoire plutôt de fin d'études, voilà, sur les personnes âgées ayant une démence mixte. Donc voilà, je voulais continuer ce travail un petit peu auprès des personnes âgées, mais la moitié de la semaine, je suis aussi avec des enfants pour varier un petit peu le rythme des semaines et le rythme de prise en charge pour pas s'englober dans une routine. Moi, c'était un choix.
Et pour ma part, c'était le choix principal, c'était le lieu de vie qui m'intéressait et le domicile. Avoir accès au domicile, c'est assez exceptionnel dans nos pratiques aussi, car on est souvent en institution et c'est vraiment un plus pour faire du lien, travailler le lien de confiance avec les proches aidants ou la personne. Même si on peut être intrusif, souvent en première intention, ça peut paraître assez intrusif, mais c'est tout un travail de coordination pluriprofessionnelle et aussi humaine avec les gens qu'on rencontre.
Dans vos pratiques, quelles sont les difficultés que vous rencontrez d'être en zone très rurale ?
Moi, parfois, c'est plutôt de trouver le domicile des personnes, parce que parfois, c'est mal indiqué sur les routes où les GPS ne trouvent pas. Après, la zone rurale, je vois pas particulièrement de différence par rapport à la ville. Non. Enfin, c'est pas...
C'est plus la route, parce qu'il y a un grand territoire couvert par le service, en fait. C'est vraiment un territoire muré et cœur de Garonne. Donc, ça va de Villeneuve-Tolosane à Sainte-Gabelle, le Fousseret.
Caser,
Boussin. C'est assez étendu.
C'est la route qui est plus compliquée.
Quand je posais ma question, c'était aussi concernant peut-être moins de spécialistes, moins de médecins traitants, moins de...
Alors c'est vrai que par contre, du coup, le fait qu'on soit un petit peu excentré de la ville, c'est vrai que nos bénéficiaires ont souvent du mal à trouver des orthophonistes ou des kinésithérapeutes qui vont venir à domicile. Donc là, c'est vrai que ça bloque un peu plus. Après, voilà, le territoire, bon, il essaie de compenser un petit peu ces difficultés-là de professionnels. Donc... voilà, c'est aux maisons de santé de chaque ville, voilà, d'essayer un petit peu d'appâter ces professionnels. On y arrive de plus en plus, hein, mais après, voilà, il y a une carence un petit peu sur le territoire, mais qui n'est pas que pour les personnes âgées, mais qui est vraiment pour tout le monde, même les enfants. Donc, c'est vraiment, oui, le fait d'être excentré de la ville, mais un petit peu comme partout en France, du coup.
Oui, ça, c'est une autre question, du coup. Mais oui, nous, on essaie de répondre en déployant la communication auprès des médecins ou des partenaires, mais ça, c'est la part de l'infirmière coordinatrice qui s'en occupe, en fait.
Et vous êtes souvent en relation avec ces médecins, ces kinés, ces orthophonistes ?
Comme l'a dit Eva tout à l'heure, justement, la rééducatrice, puisqu'on est trois femmes là, a pour rôle aussi de coordination à son échelle entre professionnels de santé. Donc oui, on est en lien avec eux. On se fait connaître aussi comme ça, indirectement, en donnant un retour sur, par exemple, une prescription. On peut recontacter en retour le médecin.
Voyez-vous des différences maintenant, après votre passage, qu'est-ce que vous voyez comme différence chez les bénéficiaires, comme vous dites, ou chez les patients ?
Alors, donc on travaille beaucoup avec le patient, mais aussi l'aidant, du coup le proche, qui vit au quotidien les difficultés de la personne qui va avoir la maladie. Donc on voit beaucoup d'évolutions autour des aidants qui vont mieux s'adapter, mieux appréhender la maladie. Après, voilà, pour le patient aussi, on en a qui reprennent des activités du quotidien, qui vont reprendre le jardinage après notre passage. Mais il faut que ce soit initié quand même. Donc, c'est pour ça qu'on demande beaucoup à l'aidant. Après, oui, après, il y a des personnes où on avance plus lentement, mais tout dépend aussi de l'acceptation de la maladie par rapport à la personne.
L'acceptation de la maladie par rapport à la personne, c'est-à-dire que la personne qui accepte de se voir dans cet état-là ou de la part des aidants ?
Les deux. Donc, si on a un patient qui n'accepte pas sa maladie, qui est plutôt dans le déni, on va avoir beaucoup plus de mal à avancer que quelqu'un qui a conscience de ses difficultés. Et pareil pour le proche, hein, s'il est dans le déni des difficultés que présente la personne, on avancera aussi moins bien. Donc, du coup, on a un rôle aussi de faire accepter un petit peu cette maladie qui est posée et dont pour le moment, il n'y a pas de traitement, donc on est obligé de faire avec.
Et au niveau de l'ergothérapeute ?
Ne serait-ce que l'intervention de notre équipe, en fait, ça met le point sur une maladie, un diagnostic ou des difficultés, d'autant plus qu'au premier entretien, on pose des questions qui peuvent être aussi gênantes, hein, on montre ce qui ne va pas, systématiquement, mais on le met en avant, donc on va déranger, et le fait de revenir... Chaque semaine, ça et d'une part, ça montre ce qui peut ne pas aller, mais on va quand même dans une amélioration. On est vraiment dans l'idée de voilà du maintien à domicile, c'est le but de l'équipe. Donc le travail se fait petit à petit, parfois d'une année à l'autre, si on revoit les personnes. Il ne se fait pas en 3-4 mois, c'est trop court quelquefois pour certains.
Et quand vous parlez tout à l'heure de déni de la part ou des aidants ou de la part de la personne qui est atteinte de la maladie, c'est un rejet de leur situation, c'est de la colère intérieure.
Alors là, ça dépend vraiment de chaque personne, parce que le déni, nous, on le constate quand, voilà, quand on les met face à l'échec et qu'ils nous disent oui, mais non, enfin voilà, qu'ils cherchent des excuses un petit peu. Après, le pourquoi la personne est dans le déni, ben ça vraiment, ça dépend des personnes. Il peut y avoir un peu de tout, de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, beaucoup aussi, de qu'est-ce que c'est cette maladie, comment ça évolue. C'est au cas par cas.
Ça dépend de l'histoire de vie de la personne aussi. Ces choses qu'on ne connaît pas ou qu'on peut déceler par des non-dits ou des attitudes, mais...
Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, si elles devaient, si elles pouvaient vous aider dans votre travail auprès de leurs proches, ce serait quoi ?
L'idée, c'est de faire des premières observations, en fait, sur le quotidien. Donc, l'idée serait même de mettre en place peut-être des guides, des pense-bêtes ou un petit agenda pour pallier les répétitions. Par exemple, si la personne parle, si y a un rendez-vous de prévu, mettons, chez le coiffeur, donc au lieu de répéter peut-être plusieurs fois la chose, on peut avoir l'idée de le noter sur un papier ou sur un calendrier. Donc ça, ce sont déjà des petites astuces qu'entre autres nous, à l'équipe spécialisée Alzheimer, on peut proposer. Mais si déjà ça se met en place intuitivement à la maison, ce sont déjà des plus. Et si toutes ces choses-là ne suffisent pas, là, ben, les limites, c'est l'idée, c'est d'en discuter au médecin traitant et de voir ce qui peut être creusé ensuite.
Pour les personnes qui nous écoutent, moi, je pense que voilà, quand on se pose des questions par rapport à son proche, c'est tout d'abord voilà de voir ce qui pose question et de principalement d'aller voir d'abord le médecin traitant parce qu'il est là pour généraliser toutes ces problématiques et c'est le médecin traitant qui va venir orienter vers les bons praticiens après. Donc nous, c'est vrai qu'on arrive souvent en seconde ou même troisième intention. On n'est jamais la première intention pour des personnes qui vont avoir des maladies plutôt neurodégénératives. Nous, c'est plutôt le médecin spécialiste ou le médecin traitant qui va dire peut-être qu'un psychomotricien ou un ergothérapeute pourrait être intéressant, mais c'est rarement les personnes qui viennent nous voir tout de suite. Donc c'est toujours le médecin traitant que je conseille en premier.
Annelise et Eva, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes toutes les deux praticiennes à l'équipe spécialisée Alzheimer qui s'occupe de la prise en charge à domicile des maladies neurodégénératives sur le bassin de Muret, cœur de Garonne. Pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que vous pourrez retrouver le podcast sur Radio Galaxy et puis vous pouvez aussi prendre contact donc avec l'équipe spécialisée Alzheimer au 05 61 90 86 36. Choix numéro 2 lors de votre menu. Eva, Annelise, merci à vous.
Merci.
Et puis bon courage pour la suite de vos pratiques.
Et bien bonne continuation à vous aussi.
C'était beau, les oiseaux dans les arbres. C'était chaud, le soleil sur la table. Pardonnez-moi si ça vous fait sourire, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs. C'était bon, le raisin sur la vigne. Et le poisson qu'on pêchait à la ligne. Pardonnez-moi si ça vous fait sourire, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs. Le vent qui soufflait à la brune sur les amants qui s'aimaient sous la lune. Pardonnez-moi si ça vous fait sourire, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs. Quand on est vieux, que l'on n'attend plus rien, on reste seul à rêver dans son coin. Pardonnez-moi si je me fais plaisir, mais laissez-moi vivre de mes souvenirs.